La grande table d'été s'ouvre aujourd'hui sur des images et des icônes. À 13h30, le peintre Pierre Buraglio sera parmi nous à l'occasion de la rétrospective que lui consacre le musée d'art moderne contemporain de Saint-Étienne. Mais pour l'heure, préparez-vous à changer de tenue, faites trois tours sur vous-même, enfilez cap, collants et slip par-dessus. La 8e Biennale du 9e art, la 9e Biennale du 9e art fait la part belle aux super-héros, le musée Thomas-Henry à Cherbourg et les 7 lieux de Bayeux rendent hommage au maître en la matière Jack Kirby, trop souvent supplanté par ses créatures, Captain America, Iron Man ou encore les X-Men. Néanmoins, si ce nom a tendance à s'effacer, le trait de Kirby reste bien là, énergique, heurté, reconnaissable entre tous, témoin d'une histoire violente qui a marqué son œuvre. Nous allons parler de Jack Kirby en compagnie de Jean de Pelé, scénariste de bande dessinée, historien des comics américains, et de Yann Graff, éditeur chez Urban Comics. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les deux. Alors d'abord quelques mots sur cette 9e Biennale du 9e art. On voit qu'elle se tourne peu à peu vers les États-Unis, Jean de Pelé.
Oui, avec une magnifique exposition sur Jack Kirby, près de 200 originaux et... D'ailleurs, pas que des planches de Kirby, des planches d'autres maîtres américains, mais Kirby étant le, peut-être le plus important.
Avec des objets aussi de collection, peut-être on va faire un petit retour sur cette exposition qui est relativement chronologique, ce qui nous arrange puisqu'elle va reprendre le parcours alors à la fois de l'histoire du comics américain, mais aussi celle de l'œuvre de Jack Kirby qui lui aussi va évoluer finalement des comic strips à la naissance des comic books. Peut-être on va reprendre ce détail-là.
Oui, parce qu'en fait, il commence, comme tous les artistes de comic book, par vouloir faire du comic strip, parce que les bandes de journaux, en fait, payent plus que les magazines de comic book à la fin des années 30, au début vraiment de l'explosion du comic book. Jack Kirby, d'ailleurs, il est inspiré de dessinateurs comme Alex Raymond ou Milton Caniff, qui sont des dessinateurs de comic strip. Et très vite, il rejoint un studio et il rencontre un scénariste et encreur et dessinateur qui s'appelle Joe Simon. Et Simon et Kirby, en fait, ça va devenir les deux première superstar du comic book aux États-Unis.
Alors d'autant plus que c'est un peu un rêve américain à travers l'histoire de Jack Kirby, puisque Jean de Pelé, il va y avoir ses origines sociales relativement modestes, il vient d'un New York un peu déshérité.
Oui, absolument.
Je vous vois hocher de la tête.
C'est même la misère la plus totale, vu qu'il naît dans le Lower East Side, qui est un quartier extrêmement pauvre de New York, là, qui
à
est aujourd'hui
oui.
En 1917, donc qui est aujourd'hui en réhabilitation, mais à l'époque, c'est vraiment terrible. On est dans le monde de... Bah, on va dire que sa jeunesse a été marquée par la crise de 29. Ses parents, son père va perdre son emploi de tailleur. Il est issu d'une famille juive d'origine autrichienne. Et donc, très très vite, Kirby va devoir, Jacob Kurtzberg va devoir donc travailler et pour amener de l'argent dans le foyer.
Alors, dès l'âge de 14 ans, dès son adolescence, il va vendre des journaux.
Oui,
puis,
absolument.
Il va néanmoins commencer très vite son travail de dessinateur.
Très très vite, entre deux bagarres d'ailleurs, parce que c'est un petit bagarreur, un petit teigneux. Et d'ailleurs, toute cette énergie, cette espèce de force vive qu'il a en lui, va se retrouver incarnée dans son dessin. C'est le premier dessinateur à réellement dessiner le mouvement, a réellement dessiné autre chose que des têtes qui parlent, comme on pouvait le voir à l'époque dans les bandes dessinées. Quand il donne un coup dans son Captain America, ou même dans des bandes dessinées qui précèdent Captain America, comme Blue Bolt, eh bien, on sent le coup. On sent vraiment que c'est du vécu.
Alors, il y a cette image du mouvement, parfois de la violence, qui va lui être reprochée, qui va être un grand reproche fait aux comics américains. Il y a aussi ces figures puissantes. En tant que tel, la mâchoire, le gabarit.
Ouais, parce qu'on on reconnaît plus ou moins un personnage de Kirby, ouais, la façon dont il se tient, dont il se pose. Généralement, le personnage se tient sur s'appuie sur ses genoux, il est les deux poings en avant, la mâchoire en avant. Et si on revient aux origines de Kirby, il a réalisé une bande dessinée autobiographique de quelques pages qui s'appelle Street Code, le code de la rue, et il a réalisé ça à la fin des années 70, donc vraiment à la fin de sa carrière, où il parle de sa jeunesse dans le Lower East Side, et on voit, en fait, la bande dessinée tourne autour des bagarres de rue de jeunes. Et on peut voir dans les bagarres, la façon dont ils dessinent les combats de super-héros, un peu ce genre de bagarre de rue et de guerre de gang.
Alors on va voir que sa biographie va énormément influencer son dessin. Il y a au début de l'exposition aussi une salle consacrée un peu à son imaginaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des auteurs qui ont pu le marquer auparavant, Yann Graff?
Alors, il y a surtout les auteurs expressionnistes de comic strip, notamment Milton Caniff, lui-même inspiré de Noël Sickle. Donc, c'est vraiment une grosse inspiration de son œuvre. Et comme tous les gens de son époque, il a été aussi marqué par... Milton Caniff, c'est Terry et les Pirates, bien sûr. Il a été également inspiré par Harold Foster et son Prince Vaillant, dans un style beaucoup plus classique, beaucoup plus illustratif américain, et bien entendu par le côté glamour hollywoodien de Alex Raymond et de son Flash Gordon.
Alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il passe de la rue de petit vendeur de journaux dans la rue à 14 ans au studio? Comment se fait cette bascule?
Alors c'est une bascule qui s'est faite en plusieurs étapes. Hein. D'abord, il a suivi des études dans le lycée technique à côté de chez lui dans le Lower East Side, et ensuite désireux de travailler, il va commencer son premier emploi. Ça va être en tant qu'intervalliste au studio de dessin animé de Dave Fleischer, qui était un concurrent de Walt Disney à l'époque. Et il a collaboré à des Popeye, à des Betty Boop à l'époque, en tant que dessinateur qui dessinait entre les deux grandes scènes importantes. Donc il va reprendre le personnage et il a levé un petit peu plus le bras, baisser un peu plus la jambe, de manière à ce que il y ait une continuité dans ces 17 images à la seconde. Ouais. Donc ensuite de ça, il va travailler pour un petit syndicate, pour un petit groupe de journaux, réaliser des dessins de presse, quelques strips qui vont l'amener vers un quelqu'un d'un peu plus important. Il va travailler chez Will Eisner à ce moment-là, Will Eisner qui monte un studio de comic book et qui sera par la suite responsable du Spirit, que l'on connaît bien et qui est un maître également de la bande dessinée américaine. Et ensuite, il va plus ou moins se diriger, après avoir fait un petit peu le ghost artist sur certaines séries, notamment Scorchy Smith, Bob l'Aviateur, il va travailler chez un petit éditeur Fox, où il va rencontrer Joe Simon.
Alors, il y a eu plusieurs collaborations, de même que dans sa biographie, vous avez écrit sa biographie, Jean Dupelé, vous avez scindé vos tomes avant et après la guerre, puisqu'il va y avoir cette période de la guerre qui va être une charnière très importante aussi dans son œuvre. Yann Graff, qu'est-ce qu'on peut dire de cette collaboration avec Joe Simon?
C'est les premiers grands personnages que crée Kirby, co-crée Kirby, notamment Captain America. Parce que Captain America, en fait, ça démarre avec une idée qui est trouver le meilleur méchant possible pour une histoire de comic book. Et le meilleur méchant possible à l'époque, en 1941, c'est Adolf Hitler. Surtout pour deux jeunes issus de l'immigration juive à New York. Et donc, du coup, il décide de créer un super-héros en réaction à Adolf Hitler. Donc, l'idée de créer un héros patriotique vient de là. C'est avant l'entrée en guerre des États-Unis, un an avant l'entrée en guerre des États-Unis. Donc, il y a vraiment une prise de position. Et même que cette prise de position, Jean pourra peut-être valider si c'est une vraie anecdote ou pas, mais en gros, ils ont sorti les premiers numéros de Captain America et en fait, ils ont eu des coups de fil de militants d'extrême droite qui leur demandaient en fait de les retrouver pour régler leurs comptes dans la rue. Et Kirby est venu à un de ces rendez-vous.
Captain America va connaître très vite un grand succès, Jean Dupelé, à ce moment-là.
Ah oui, le succès est immédiat. Le premier numéro se vend à 1 million d'exemplaires. Effectivement, c'est très va-t-en-guerre. Il sort en 41 avant même Pearl Harbor, avant même l'entrée en guerre, à une époque où il y a encore un parti nazi américain, le German American Bund, qui fait donc des rallyes, des conférences, des congrès au Madison Square Garden de New York. Hein. On a des nazis qui défilent dans les rues de New York. Donc effectivement, c'est une prise de position, et cette prise de position dans une Amérique très attentiste, eh bien, elle va payer. Bon, de toute façon, il y aura la déclaration de guerre en décembre 41, après l'attaque de Pearl Harbor, mais...
Et surtout, il va y avoir l'engagement de Jack Kirby. Jack Kirby va s'engager volontairement ?
Alors non, pas vraiment. Joe Simon va s'engager volontairement. Jack Kirby va partir appelé. Il est déjà marié. S'il avait pu éviter, je pense qu'il aurait fait autre chose. Notamment, il aurait travaillé peut-être pour Stars and Stripes ou les autres journaux en tant que dessinateur de presse. Et il se débrouille mal. Il se débrouille mal. Bon, entre-temps, il a quitté Marvel, qui s'appelait à l'époque DC, qui s'appelait à l'époque Timely, pour aller chez DC Comics, où il fait une autre série qui marche du feu de Dieu, qui s'appelle Boy Commandos, une sorte de club des cinq contre Adolf Hitler.
C'est à ce moment-là qu'il choisit son pseudo, d'ailleurs, non ? Plus ou moins, à cette période-là, juste avant de partir ?
C'est un petit peu avant, au moment où il se marie, on va dire, au moment du succès de Captain America. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que il est appelé et il va faire ses classes et il se débrouille mal, il va se retrouver dans l'infanterie et il va se retrouver en partance pour l'Europe et notamment pour la France.
Alors on va revenir sur cet épisode de guerre.
C'est d'ailleurs un des rares, je crois, de cette époque-là. C'est un des rares dessinateurs. Je crois qu'il n'y en a que deux, en fait, de dessinateurs de comic book qui ont vraiment vécu les combats. Parce que la plupart arrivaient, en fait, à être engagés, en fait, plutôt dans les bureaux et à rédiger. Par exemple, Will Eisner a fait beaucoup de brochures pour les soldats, en fait, où son talent d'illustrateur, en fait, servait plutôt la propagande que le combat réel. Et le fait d'envoyer en fait des dessinateurs, c'était pas fréquent en fait. Kirby, c'est un des deux seuls, et je crois que le deuxième est mort au combat.
Il y a eu aussi Sid Shores, qui était un autre dessinateur de Captain America, qui est parti, qui est revenu, qui a fait également la campagne de France. D'ailleurs, ils en parlaient souvent avec Kirby dans les années 60.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'industrie des comics avant qu'on détaille les questions de la guerre américains et des studios dans cette période, juste au moment de la déclaration de la guerre, dans les années 40.
En fait, il y a plusieurs petites compagnies et la plus grosse pour l'instant, c'est National Periodical Publication, qui a une compagnie sœur qui s'appelle All American. En fait, c'est deux petites compagnies qui ont décidé de se mettre ensemble, et c'est ce qui va donner DC Comics plus tard. Donc ça, c'est le numéro un. Puisqu'à l'époque, ils ont Superman, Batman, Wonder Woman, c'est-à-dire les trois plus gros super-héros. Timely fait un gros carton avec Captain America Comics, et du coup, quand Simon et Kirby en fait, essayent de renouveler un peu leur contrat, de renégocier un peu le contrat, ils n'ont pas une oreille attentive chez Martin Goodman, donc le patron de Timely, donc ils décident d'aller voir la concurrence, et la concurrence leur ouvre grand les bras, puisqu'ils ont deux stars qui ont eu un succès déjà avec Captain America, et c'est un des premier tandem d'auteurs dont on met le nom en fait sur les couvertures. Généralement, on met le nom du héros, mais les auteurs sont anonymes.
Alors ça explique ce que l'on voit d'ailleurs avec cette exposition, que les auteurs aient été supplantés par les héros. Finalement, ce sont les studios qui sont mis en avant et les héros.
Ah, toujours, hein, il faut savoir que la plupart des auteurs, lorsqu'ils sont sous contrat, employés, leur création va appartenir de facto à l'éditeur. Hein, et donc Jack Kirby a toujours été freelance. Donc, à l'époque, il n'y avait pas la loi des copyrights qui telle qu'elle existe aujourd'hui.
Qui protégeait les auteurs pour leurs droits.
Mais effectivement, les créations étaient en mesure de lui revenir.
Alors du coup, il va y avoir effectivement des batailles judiciaires dont on parlera plus tard. En ce qui concerne l'épisode de la guerre, on va voir que dans les thématiques des comics américains, et notamment ceux de Kirby, ça va énormément marquer ce thème-là de la guerre, de la violence, et aussi qu'il va directement traiter du sujet dans ses planches.
Oui, alors... Effectivement, la guerre va jouer un rôle énorme. Bon, déjà, la guerre marque Jack Kirby avant qu'il n'y parte, vu qu'il représente des bandes dessinées va-t-en-guerre avec Captain America, Boy Commandos, mais qui sont, on va dire, avant tout axées sur les informations qu'il peut avoir, notamment les nouvelles qu'il peut avoir avant les films au cinéma. ou ce qu'il peut lire dans la presse. Bon, mais effectivement, lorsqu'il va partir en France après ses classes, eh bien, il va se retrouver tout de suite sur un champ de bataille. Il va d'abord débarquer, eh bien, à Omaha Beach un mois et demi après le débarquement. Donc en août 44, fin août 44.
Il intègre l'armée du général Patton.
Voilà, et donc il va retrouver l'armée du général Patton, il va la retrouver en Moselle, et il va faire la campagne de Moselle, et notamment l'une des batailles, la deuxième bataille la plus meurtrière donc de la campagne de France, c'est la tête de pont de Dornau.
Il va être blessé plus tard dans la guerre, en 45.
Alors, en 45, il sera déjà revenu chez lui, mais c'est en 44, fin 44, il va souffrir de ce qui touchait beaucoup de GIs à l'époque. La météo étant particulièrement difficile à cette époque en France, on a eu, paraît-il, un automne très 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 froid avec un début de neige et beaucoup de GIs qui n'étaient pas équipés à l'époque, qui portaient des chaussures et non pas des Rangers, eh bien, ont été affectés par ce qu'on appelle le trench foot, le pied de tranchée, qui est une, en fin de compte, ce sont des infections, des troubles qui touchent la circulation et souvent qui conduisent à l'amputation.
Et il va être démobilisé.
Il va revenir donc sur Paris et de Paris il va partir sur la fin de l'année 44, début 45 en Angleterre où il va être soigné, où d'ailleurs il craint pour ses pieds, hein. Il aurait pu être amputé des deux pieds. On peut lire ça dans la correspondance qu'il entretenait avec sa femme, les fameux V-mails qu'elle a conservés. Et il va être sauvé in extremis. Ses pieds vont retrouver la bonne couleur et revenir donc aux États-Unis où il va terminer sa période sous les drapeaux en tant que il va être à Raleigh en Caroline du Nord en tant que mécanicien auto. Ce en quoi d'ailleurs il n'entendait absolument rien.
Avant de reprendre son métier, je vous propose d'écouter Jacques Kirby lui-même parler de la guerre. C'était en 1983.
Superman's going to live forever. And Superman's going to be Superman as far as I'm concerned.
Superman vivra pour toujours. Superman sera toujours Superman en ce qui me concerne. Ça a sauvé ma vie. Parce qu'ainsi je croyais que personne ne pourrait me tuer. Sur un millier d'hommes, seul moi et quatre autres gars, nous en sommes sortis. Vous voyez, les gens pensent à la guerre comme ils pensent aux comics, comme ils pensent à des spectacles de Broadway. Ils ne croient pas que c'est une chose sérieuse, une chose réelle. Pourtant, ça l'est. Tu dois tuer des gars. Mon sergent m'a frappé la tête avec un casque d'acier quand nous occupions une usine de briques, quand les officiers SS ont débarqué à l'aube, comme dans un film d'Errol Flynn. Essayez pour voir. Mettez-vous au milieu de la route, face à un camion qui arrive. Et ne bougez pas jusqu'à ce que le camion soit sur le point de vous écraser. Vous savez que vous ne pouvez pas vous pousser du chemin et que ce camion va vous percuter. Restez là et essayez d'encaisser. Eh bien, imaginez, il y a cet homme qui vient vers toi avec un pistolet mitrailleur, Schmeisser, pointé sur ta tête. Et ce gars ressemble à un boucher. Il porte tout l'accoutrement et il va te tuer. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Tu pointes ton arme sur lui et il pointe son arme sur toi. Qu'est-ce que tu fais alors ?
Yann Graff, on va retrouver tous ces costumes et toutes ces armes dans les formes et les comics de Jack Kirby après-guerre.
Alors, on a, à mon avis, une bonne représentation de ce que la guerre a fait à l'imaginaire de Jack Kirby avec une série dans les années 70 qui s'appelle Le Quatrième Monde et qui présente en fait un conflit entre deux planètes. Apocalypse, qui est une planète où le mal règne, avec Darkseid, qui dirige ses troupes un peu comme les tyrans dirigeaient les troupes du Reich, par exemple. Et Neo Genesis, qui est une planète voilà, où le bien règne. Et la façon dont il dessine, en fait, c'est ce qu'il appelle les nouveaux dieux. En fait, ce sont des super-héros, mais qui ont des espèces d'armures. Alors, c'est des modifications d'armures du Moyen-Âge, mais en même temps avec un côté SF. Et avec aussi des armements qui rappellent les armements de la Seconde Guerre mondiale, les tanks, les armements qu'il a pu connaître lors des conflits. Et surtout, la série va traiter, mais de façon complètement métaphorique, du conflit, en fait, de ce que les combats peuvent faire à un soldat, et notamment les troubles, les traumatismes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour quelqu'un qui a fait la Seconde Guerre mondiale et qui, à l'époque, on est en plein conflit du Vietnam, lui prend position plutôt pour les jeunes qui refusent en fait d'aller au combat. Il présente par exemple un épisode qui est vraiment très beau, qui s'appelle The Glory Boat, dans lequel il y a un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui est avec son fils, et son fils est objecteur de conscience. Et tout l'épisode tourne autour en fait de ce conflit qui va être percuté par ce conflit entre les deux planètes d'extraterrestres.
Alors justement, son œuvre, on disait, va être marquée. Et lui, il a la particularité de l'avoir vécu sur place, ce qui est le cas de peu d'Américains. Il représente une autre Amérique en ce sens-là, Jean de Pelé.
Oui, absolument. Et ça va effectivement complètement marquer son œuvre. À divers titres d'ailleurs. Le premier, c'est que c'est la première fois qu'il sort de New York, et c'est la première fois qu'il se trouve confronté aux éléments. Et donc, un petit peu comme on peut le voir chez Bachelard, hein, les quatre éléments vont vraiment le marquer. Ben, il va les prendre dans la figure quand tout explose, quand il est dans le trou de combat Adorno et qu'il est chargé par un tank Panzer.
Quand il traverse les forêts.
Tout explose, que ce soit l'eau, que ce soit la boue, etc. Et tout ça va être représenté, tout ça, il va le vivre. Lui qui venait des immeubles de briques du Lower East Side de New York. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois qu'il va rencontrer des gens un petit peu différents des New Yorkais. Et ça va l'inspirer. Il y a un certain naturalisme chez Kirby. C'est quelqu'un qui est très observateur, qui est capable aussi, malgré son expressionnisme, de prendre le geste, l'attitude chez la personne et de la représenter, de la rendre évidente. D'ailleurs, c'est une révolution qu'il va faire dans les années 40, fin 40, quand il va faire ses romances comics. Des comics d'amour, a priori plutôt ennuyeux, eh bien, ils vont être passionnants justement à cause de ce langage corporel, de cette narration, de cette fluidité dans la narration qu'il va instiller.
Alors c'est aussi cette manière de raconter des choses très quotidiennes, un côté assez ancré, alors même que le destin des super-héros est aussi parfois déborde de tout ce cadre-là aussi.
Ah, Jack, c'est l'homme de la rue, c'est vraiment quelqu'un proche de Frank Capra, de ses préoccupations de l'Américain moyen. Effectivement, si les enjeux restent cosmiques, on va toujours être sur les pas d'une personne, entre guillemets, normale. Alors, ou tout au moins, même si elle a des super-héros.
D'un point de vue des collaborations, on avait parlé de Joe Simon, et puis il va y avoir celle avec Stan Lee. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de ses débuts avec Kirby et Joe Simon.
Quand j'ai commencé dans les comics, j'ai été engagé par Joe Simon, qui était directeur de publication chez Timely Comics. Lui et Jack Kirby formaient une équipe. En fait, au départ, Joe dessinait et écrivait aussi. Et j'avais du mal à distinguer les dessins de Jack et Joe, car leur style était très similaire. Et ils dirigeaient l'entreprise de façon très créative, ils géraient les livres, et j'étais engagé plus ou moins comme un homme à tout faire. J'allais chercher le café, je faisais aussi la correction d'épreuves de lecture, et tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite, ils m'ont laissé écrire quelques trucs. Ils se sont rendus compte que je pouvais écrire un peu, et j'ai commencé à écrire quelques scénarios. C'était amusant, pas très difficile à faire. À un moment, ils ont quitté la boîte, et je me suis retrouvée seule dans le département. J'avais environ 17 ans, et l'éditeur Martin Goodman a dit « Et tu crois que tu pourrais faire le boulot le temps que je trouve un être humain adulte normal ?» Quand tu as 17 ans, qu'est-ce que tu sais? J'ai dit, bien sûr, et je suis restée là depuis. J'imagine qu'il n'a jamais trouvé un être humain adulte et normal.
Ian Graff, on va voir ses débuts justement. Et Stan Lee qui a marqué, dont le nom a peut-être été plus retenu par les profanes en tout cas, que celui de Jack Kirby. Pourquoi?
Parce que Stan Lee, je pense que son meilleur super pouvoir, c'est d'arriver à faire sa propre promotion.
Mais ouais, c'en est un réel.
C'était en fait, il était la figure de proue du Marvel Comics Group dans les années 60, quand justement Stan Lee, Jack Kirby et puis un autre dessinateur qui s'appelle Steve Ditko ont créé tout ce cheptel de personnages qui aujourd'hui font en fait le succès des grands films Marvel. Donc on a les quatre fantastiques.
On va prendre le Panthéon. Alors donnez-nous les noms.
Alors les quatre fantastiques, l'incroyable Hulk, les Avengers, Black Panther, ouais, qui apparaît d'abord dans les 4 Fantastiques, mais qui est un des premiers super-héros afro-américains. Plutôt même africain, puisqu'il est, il est issu d'une nation africaine. Ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs ont déjà la cinquantaine. Et en fait, ils sont complètement en phase avec leur public qui, lui, est un public qui passe le public des comics des années 40-50 et plus un public qui a 8-10 ans. Et là, on a un public d'adolescents et même d'étudiants qui s'intéressent aux comics. Et l'une des grosses qualités du travail de Stan Lee, c'est dans ses dialogues, puisqu'il dialoguait à peu près tous les comics Marvel. Et c'est de donner un ton qui était à la fois un peu décalé par rapport à l'action, et de mettre un peu d'humour, de rejoindre un peu l'humanité justement de ce que disait Jean à propos des dessins de personnages de Jack Kirby, qui il y avait une humanité qui transparaissait, et c'était des super-héros qui devenaient plus humains que ceux de la concurrence, que ceux par exemple que Superman, Batman et Wonder Woman. Les Quatre Fantastiques, par exemple, la première apparition, ils sont en costume de ville, ils n'ont pas d'uniforme. Et ils ont des problèmes, des problèmes psychologiques, des problèmes entre eux, des problèmes relationnels. Les X-Men, dans les premiers numéros, ils parlent du racisme, ils parlent de la haine que peuvent ressentir des humains par rapport à des mutants. C'est un reflet de ce qu'il y avait à l'époque des troubles sociaux. Et c'est cette prise en compte de l'esprit révolutionnaire des années 60 qui va faire le succès de Marvel. Et Stan Lee le comprend tout de suite, en fait. Il voit les lettres arriver, le courrier arriver, et il voit que c'est des étudiants. Et donc il décide de faire le tour des campus, et c'est là où, en fait, il devient un peu le monsieur loyal de tout cet éditeur.
Alors Jean de Pelé, il va falloir du coup adoucir un peu les monstres, les créatures qui peuvent être assez terrifiantes dans la période qui précède. Donc petit à petit, les choses vont un peu s'adoucir avec le temps.
Est-ce qu'elle s'adoucit? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il y a un retour des super-héros qui se fait en 61, qui correspond un petit peu à une mode qui a été observée chez d'autres éditeurs, notamment chez DC. Et effectivement, l'éditeur, Martin Goodman, l'éditeur de Marvel, va demander à Stan Lee de refaire des super-héros. Bon, effectivement, on est dans une période post-54 avec un comité d'autocensure qui doit contrôler que ces lectures soient bien pour tous. Et effectivement, c'est adouci par rapport aux comics du début des années 50. Mais je dirais que au niveau de Stan Lee et de son rapport avec Jack Kirby, effectivement, je dirais que Stan Lee est plus un éditeur dialoguiste parce que en fin de compte la boîte était au bord de la faillite et que il n'éditait que 8 titres mensuels et donc il voulait avoir un petit peu plus d'argent en justifiant une activité de scénariste, mais que en fin de compte toutes les idées de base, si elles ont été commandées par l'éditeur via Stan Lee à Jack Kirby, eh bien elles ont été apportées par Jack Kirby.
Alors justement sur cette collaboration-là, il y a eu effectivement des onomatopées qui vont arriver, qui vont faire aussi le succès. On va voir arriver au milieu du dessin ces dialogues-là. Comment se passait la collaboration, puisqu'ensuite on en a retenu beaucoup de noms. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de leur relation? Il y avait un freelance dans le lot, Jack Kirby, Stan Lee, et lui faisait partie du studio.
Alors c'est un petit peu le fond du problème. Alors je vais d'abord aller sur le fond du problème, c'est que Stan Lee était engagé, il était employé de la société. Et Jack Kirby a toujours été freelance. Donc à un moment, lorsque à la fin des années 60, l'éditeur Martin Goodman a voulu vendre Marvel Comics à une société Perfect Film, pour ne pas la citer, eh bien il a voulu montrer qu'il possédait les copyrights de ses créations, et donc quoi faire? Eh bien, il fallait justifier que les personnages avaient bien été créés par Stan Lee. Et donc, on a ce problème d'entrée de jeu avec le statut de Jack Kirby qui est freelance. Jack Kirby va apporter le concept des Quatre Fantastiques, de Hulk, de Spider-Man, de tous ces personnages-là, qui vont être effectivement édités, dialogués par Stan Lee, et donc son rôle est absolument pas à rejeter, hein. Mais c'est un rôle avant tout d'éditeur, dialoguiste, quelqu'un qui va parfaitement comprendre que sa petite structure doit être complètement cohérente avec des titres interconnectés, de manière à vendre le catalogue complet aux fans.
Alors c'est la période des grandes créations. Peut-être on va revenir sur les œuvres de l'époque. Est-ce que notamment le Quatrième Monde qui apparaît à cette période-là?
Alors le Quatrième Monde, c'est juste après, en fait, quand il quitte justement Marvel. En partie à cause de la bataille sur les droits concernant les personnages, parce qu'il a envie, en fait, petit
il,
à petit...
c'est Jack Kirby.
Ouais, Jack Kirby, en fait, sur la fin des années 60, il ne dessine plus que deux titres, Les Quatre Fantastiques et Thor, et on sent bien qu'il a envie, en fait, de dessiner des sagas plus amples, et que le système Marvel lui convient plus, en fait. D'envoyer ses planches, d'avoir des dialogues qui sont faits par Stan Lee, il a envie de tout contrôler. Et DC Comics lui propose ça, en fait. Il propose d'avoir le dessinateur concurrent de Marvel, c'est-à-dire le dessinateur numéro un, de le faire venir chez DC et de lui donner, en fait, tout un cheptel de séries. Et il va créer quatre séries interconnectées, donc qui sont reliées sous le titre Quatrième Monde, mais qui chacune présente des intrigues, en fait, une intrigue principale pour chaque série, mais elles sont toutes connectées par ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire la guerre entre Apocalypse et Neo Genesis. Donc vous avez New Gods, Mr. Miracle, Forever People et une reprise qui est Jimmy Olsen, le copain de Superman, qui était le titre qui se vendait le moins bien chez DC Comics, et du coup ils lui ont donné pour retaper un peu le personnage. Et non seulement il écrit et dessine ses séries, mais aussi il les supervise éditorialement. C'est-à-dire qu'il n'a plus personne, en fait, derrière lui pour lui dire quoi faire et comment gérer ses histoires.
Alors on va voir que d'un point de vue du dessin, d'un point de vue esthétique, le dessin évolue, c'est ce que montrent aussi les expositions en permanence, d'ailleurs tout au long de sa carrière. Je vous propose d'écouter Simon Merle en parler. C'était sur France Inter le 2 mai 2015.
Il y a une influence certaine, même les créateurs le disent, notamment le personnage d'Achille aurait inspiré celui de Superman, avec le talon d'Achille de Superman étant la kryptonite. Après, il y a, à mon avis, deux différences essentielles, pour revenir encore une fois aux critères du super-héroïsme, auquel je tiens quand même, parce qu'il faut arriver à délimiter un peu le genre. C'est la double identité qui n'est pas présente, bien sûr, chez les héros grecs, et c'est encore plus important, le sens moral, puisque Achille combat uniquement pour sa gloire personnelle. Donc ça fait une différence extrêmement importante avec le super-héros. Elle permet trois choses principalement. La double identité, elle permet déjà l'anonymat du super-héros, tout simplement parce que si on veut qu'il soit un être moral, il ne faut pas que le mérite retombe sur sa personne, et donc il refuse finalement qu'on le récompense, et en cela il assure son intégrité morale. Elle a un but aussi de protection vis-à-vis de ses proches, pour ne pas qu'on attaque ses proches, le super-héros se cache derrière le masque. Mais bien évidemment, il y a une possibilité d'identification à partir du moment où le super-héros finalement est un homme qui a une vie ordinaire comme nous lorsqu'il est sans son costume, et ça c'est très important.
Jean de Pelé, on va revenir sur ces critères. Alors, critères esthétiques, là aussi, critères moraux. Quels sont les critères du super-héros et qu'est-ce qu'on peut dire de ceux de Kirby en la matière?
Alors, les critères du super-héros de Kirby, je pense que c'est un petit peu les critères de Kirby lui-même. Il a vécu une vie tellement riche, tellement... c'est vraiment un super-héros lui-même. Il a survécu à la Grande Dépression, il a survécu à la guerre, il a su donner donc à sa famille nombreuse, parce qu'il avait quatre enfants, donc et sa femme, une existence tout à fait honorable. Il a fait évoluer les conditions de sa profession, aidé en cela par d'autres dessinateurs.
Notamment ceux des indépendants, hein, c'est ça, de ceux qui s'affranchissent des grands studios?
Absolument, et il a lutté contre un certain système, justement en oscillant d'un éditeur à l'autre, malheureusement dans un éternel mouvement de va-et-vient, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses. Enfin, dans les années 80, il va aider des jeunes indépendants, des jeunes éditeurs indépendants, notamment Pacific Comics, qui se monte en donnant un projet qu'il avait déjà, qui s'appelait Captain Victory. Donc, il est vraiment à la pointe. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, Kirby en est. Et Kirby va insuffler dans son art ces idées-là. C'est-à-dire que quand l'impression va le permettre, eh bien, il va faire des photomontages. Il va découper découper dans des magazines dans lesquels il était abonné. Il va faire des montages entre des photos, des dessins. Ça va donner un côté pop art absolument extraordinaire qui aujourd'hui est très recherché et qui a inspiré pas mal de grands dessinateurs et de grands peintres.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire des super-héros évoqués, en tout cas de l'influence des dieux dont parlait Simon Maire, le Achille notamment, et la question de la double identité, identité physique, identité morale aussi?
Oui, parce que la grande série des années 70, donc dans le quatrième monde, c'est les New Gods, c'est les nouveaux dieux. Pour lui, le super-héros était le descendant direct de ces dieux. De toute façon, il a été déjà très impressionné par un personnage qui est Thor. Thor, il en fait une première version dans les années 40.
C'est la mythologie nordique.
Voilà, c'est la mythologie nordique. Il reprend ce personnage, en fait un criminel dans les années 40, dans un épisode du Sandman. Et dans les années 60, il en fait carrément un héros. Et il reprend dans cette création de Thor dans les années 60, il reprend des marques d'autres super-héros qui ont existé avant, comme Captain Marvel, qui était un jeune garçon qui se transformait en prononçant un mot magique, il y avait la foudre qui tombait dessus, et il se transforme en super-héros. Et Thor, c'est la même chose, c'est un docteur qui s'appelle Don Bleck, qui retrouve une canne dans une caverne, il frappe la canne, et il se transforme en Thor avec donc le marteau magique. Et dans les New Gods, il crée sa propre mythologie, il crée son propre panthéon de dieux qui sont des super-héros, qui chacun représente, c'est des divinités qui représentent, par exemple, vous avez Lightré qui représente le soleil, vous avez Métron qui représente l'intelligence.
Donc la qualité morale existe dans l'œuvre.
Voilà, ouais, c'est ce qui distingue ces personnages des dieux de l'Antiquité. C'est effectivement qu'il y a une distinction entre les dieux qui agissent pour la justice et les dieux qui agissent pour le mal.
Jean de Belay.
Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a de prégnant dans l'œuvre de Kirby, notamment dans le quatrième monde, c'est ses origines juives. Et on peut voir apparaître en filigrane des New Gods les séphirotes de la Kabbale, hein, et qui sont les espèces d'émanations du dieu, du Ein Sof, de l'arbre de vie. Et qui sont pas forcément d'ailleurs morales, ou bonne ou mauvaise, mais qui aussi un petit peu entre les deux, et qui sont juste des émanations donc du dieu juif du Ein Sof.
Alors puisque vous parliez aussi du pop art dans les années 80, il y a une recrudescence justement, et c'est le cinéma qui va s'emparer peu à peu de ces super-héros, en reprenant aussi les caractéristiques du dessin, c'est-à-dire ces traits, ces mouvements dont vous avez pu parler, Jean de Pelé.
Alors effectivement, Kirby cherchait à être le plus dynamique possible, le plus rentre-dedans possible, avec des personnages qui sortaient, qui jaillissaient de la page, un petit peu comme au cinéma, on peut le faire aujourd'hui. Et c'est vrai que le cinéma va très très vite s'emparer des créations de Kirby. Dès 44, hein, vu que Timely, Marvel, cède les droits de Captain America pour un premier film, un serial, comme on dit à l'époque. Ce sont des films à épisodes qui sortira à cette époque-là et qui est d'ailleurs assez mauvais. Ensuite, il faudra attendre les années 60, le succès de la série Batman chez DC Comics, hein, qui est adapté à la télévision avec un générique très pop art, pour voir apparaître des dessins animés, des super-héros Marvel, d'ailleurs des dessins animés qui copie complètement les cases des bandes dessinées, sans pour autant payer les artistes. Sauf Marvel, bien sûr.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire des films ensuite à effets spéciaux, Ian Graff, qui arrive bien plus tard?
Alors oui, parce qu'en fait la complexité avec les personnages Marvel par rapport à Batman, c'est qu'il faut une quantité d'effets spéciaux pour représenter les pouvoirs. Et à partir des années 2000, là, on commence à avoir des effets numériques qui permettent le rendu de ces capacités. Donc, c'est là où on développe, il y a le Spider-Man de Sam Raimi. Et puis, vers la fin des années 2000, il y a Iron Man, qui est une des co-créations de Jack Kirby. Qui est donc suivi par l'incroyable Hulk. Et puis ensuite tous les autres, il y a Captain America, il y a les Avengers, Thor, et aujourd'hui ils sont capables de retranscrire le côté énorme et le côté prodigieux de ses pouvoirs.
Alors on va écouter un petit extrait, c'est la scène d'ouverture d'Iron Man en 2008, réalisée par John Favreau.
Yes, please. Is it true you went 12 for 12 with last year's Maxim cover models?
That is an excellent question. Yes and no. March and I had a scheduling conflict, but fortunately the Christmas cover was twins. Anything else? You're kidding me of the hand up, right?
Alors, quelques mots sur ce personnage mis à l'écran, mis au cinéma.
Alors, c'est pas un personnage où Kirby a eu énormément, en fait, sur la création. Il a créé surtout l'armure, la première armure, l'armure grise, qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier film de John Favreau. Mais c'est un autre dessinateur qui est Don Heck qui a fait les premières aventures.
En fait, il a fait le concept art, c'est-à-dire, c'est le premier dessin qu'il a soumis à Stan Lee. Et comme il n'avait pas le temps de dessiner, ça a été effectivement donné à Don Heck.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de la manière dont toute une génération bien postérieure va redécouvrir ces héros Marvel ?
Bien,
parfois même sans en connaître l'origine au départ.
C'est un petit peu le problème c'est la force et le défaut peut-être de la politique éditoriale de Stan Lee. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marche très bien quand il y a 8 titres. Quand il y a 20 titres, ça commence à marcher moins bien. Et après, ça devient carrément problématique. Parce que pour comprendre ce qu'il se passe dans cet univers, il faut tout lire. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, il faudra avoir une bible des personnages pour savoir qui est qui fait quoi, quels sont les enjeux, etc. Et je vous dis pas après quelques décennies. Donc aujourd'hui, à force de reboot, de nouvelles séries, de revenir aux sources avec des numéros 1, peut-être que le filon s'épuise un peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, le cinéma est venu à point nommé pour relancer ces grands personnages.
En même temps, en animant aussi les débats sur les questions aussi de copyright, puisque même lors des expositions, y compris celle de Cherbourg, il est compliqué de réaliser un livre d'exposition. Il y a toujours cette question des droits qui est très complexe, Yann Graff.
Oui, parce que le droit d'auteur n'est pas le même en Europe. Nous, on le voit de façon, quand on fait nos albums, on met l'auteur en valeur. Et on a toute une collection, justement, d'albums dédiés à Jack Kirby et à son œuvre chez DC Comics. Mais c'est aussi par le fait que les éditeurs chez DC Comics avaient décidé, à partir des années 70 et dans les années 80, il y avait Paul Levitz et Janet Kahn qui avaient décidé vraiment de mettre en avant le travail de Kirby et de lui donner des royalties sur les personnages qu'il avait créés. Et ça, c'était une première pour lui, parce que c'est la première fois qu'il touchait des droits sur des personnages qu'il avait créés. Donc nous, on a cette possibilité-là, en traduisant ces bandes dessinées, voilà, de mettre en avant le travail, ce qui est vraiment un pur plaisir, parce que c'est quand même le dessinateur le plus important pour le comic book américain, notamment le comic book de super-héros. Mais, Marvel... La complexité, c'est qu'en plus, maintenant, Marvel est détenu par Disney et que leur politique n'est pas à la base de mettre en avant les auteurs. Même chez Disney, ça n'a jamais été vraiment... On n'a jamais mis en avant les animateurs, on a mis en avant le monsieur loyal Walt Disney. Quoi.
Juste un petit mot, Jean de Pelé, on en finira là-dessus. Sur la question de la censure, ils ont été censurés, Jack Kirby a été censuré, notamment par les commissions de surveillance des publications destinées à l'enfant sur la question de la violence.
Oui, alors en France, effectivement, on a eu pas mal de problèmes lorsque il a fallu découvrir les super-héros de Jack Kirby, notamment la série des Quatre Fantastiques, qui est sa la pierre d'angle de Marvel. La revue Fantasque, en 69, a cessé de paraître après 7 numéros. C'était un choix délibéré de l'éditeur, sinon il risquait des attaques, des poursuites judiciaires. Et ces menaces ont continué, ont perduré avec une autre revue, toujours des éditions Lug, la revue Marvel, qui s'est arrêtée au numéro 13, effectivement. Et donc, les éditeurs ont dû s'accommoder de tout ça et redessiner d'ailleurs certaines pages, caviarder les pages, enlever les onomatopées et la violence.
Merci à tous les deux. Je rappelle que le musée Thomas-Henry de Cherbourg accueille l'exposition Jack Kirby et sa galaxie de super-héros jusqu'au 1er septembre. Autre exposition à signaler, dont vous êtes le commissaire, la guerre de Jack Kirby, l'inventeur des super-héros modernes, jusqu'au 24 août. Aux 7 lieux de Bayeux.
Thank you.
écoute Laurent de Wilde et le New Monk Trio Monk's Mood, extrait de l'album sorti en 2017. Le pianiste français et amoureux de l'œuvre de Thelonious Monk, Laurent de Wilde fait revivre l'âme du géant du jazz dans une série de concerts qui démarre le 24 août au Sunset Club Jazz de Paris et le 4 septembre à Anglet, le 18 septembre à Paris et le 19 octobre à Nancy. Il est 13h30 sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité le peintre Pierre Buraglio. Collage, camouflage, agrafage, à en croire la rétrospective que lui consacre le musée d'art moderne contemporain de Saint-Étienne, l'œuvre de Pierre Buraglio commence par une série de rimes et d'allitérations. Heureux hasard pour un peintre si soucieux du langage. L'allitération se poursuit. Peintre de lettres et de poésie dont l'œuvre esthétique rime avec une idée politique du monde, chevillée au corps de l'artiste depuis 60 ans. Pierre Buraglio est aujourd'hui l'invité du portrait de la Grande Table d'été. Bonjour Pierre Buraglio.
Bonjour.
On entendait du jazz, on est arrivé avec Thelonious Monk repris. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Le jazz aussi a marqué votre œuvre, ça a été une rencontre à New York, le jazz.
Oui, oui, certainement. Le livre de Laurent de Ville, je l'ai lu sur Monk, c'est un très beau livre, oui, oui. Et j'ai même retenu quelques passages que j'ai repris dans le catalogue pour cette première idée. La deuxième, à Thelonious Monk, alors là, je fais beaucoup d'envieux parce que j'ai 22 ans et je l'entends au Five Spot, qui est une boîte minable à New York, où nous sommes une quinzaine, et voilà, j'ai cette chance.
Et est-ce que ça va marquer votre peinture? Il y a beaucoup de liens entre l'écriture, ce que vous avez pu entendre, la poésie et votre peinture. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la musique?
Écoutez, c'est vraiment pas une relation ou un apport mécanique. Il me semble que le fait d'avoir écouté très jeune, d'avoir eu la chance comme ça par un copain de lycée qui était plus curieux que nous autres, tu vois, Louis le Grand, il y avait une boîte, il y avait un latin musique, un disquaire, comme on n'en trouve plus, un vrai disquaire. Et alors là, nous avons été un peu initiés au bebop ou hard bop. Alors, on peut dire, mais enfin, encore une fois, c'est pas mécanique, c'est beaucoup plus complexe, les rapports entre la musique et les arts plastiques. Il y a un type qui a très bien travaillé la question, c'est Jean-Yves Bosseur. Le côté, si vous voulez, la dislocation, le heurt, ça peut se retrouver dans ma peinture.
Ah, il y a l'idée aussi de la série, de la variation.
Oui, oui. Alors là, c'est plus général à la musique. Et mon rapport à la musique, malheureusement, je suis dépourvu d'oreilles. Je suis pas du tout... je suis comme quasiment sourd à côté de quelqu'un qui a vraiment de l'oreille. Mais je vis avec la musique. Je vis avec France Culture le matin, certes, mais France Musique l'après-midi. Et ça me nourrit.
Votre œuvre, elle est marquée aussi par un rapport à l'histoire. Alors, à l'histoire de l'art, bien sûr, puisque vous avez retravaillé autour d'œuvres qui existent déjà. C'est l'idée de faire aussi avec ce que l'on connaît aussi depuis toujours.
Oui, oui, certainement. J'ai une formation classique. J'étais à l'école des Beaux-Arts. J'ai concouru pour le prix de Rome, que je n'ai pas eu. Je regrette pas avoir insisté, parce qu'à l'âge que j'ai, ça m'aurait plu comme ça
d'avoir le prix de Rome?
Oui, d'avoir cette référence inattendue en regard de ma production. Bon. Et donc, j'ai appris à dessiner, j'ai été familiarisé, même très tôt, grâce à mon père, aux musées, aux œuvres d'art.
Votre père était architecte?
Oui, très modeste architecte, notamment travaillait dans la reconstruction du Cotentin. Ma relation à l'histoire de l'art, en particulier à la peinture, elle est originelle, voilà, je cherchais le mot, elle est absolument originelle. Alors, il y a l'autre relation, il y a la relation à l'histoire, plus généralement, plus globalement, je veux dire, ce sont plutôt des tentatives. et notamment dans l'exposition Bas Voltage, donc au musée de Saint-Étienne, il doit y avoir 2-3 tableaux qui font plus directement allusion à l'histoire, ou disons mon histoire endiguée dans la grande histoire.
Alors votre histoire, c'est l'histoire aussi de votre engagement politique, l'engagement politique que l'on retrouve aussi dans votre manière de produire, dans le geste artistique aussi, Pierre Buraglio, dans le coût des œuvres, dans le choix des matériaux.
J'aimerais bien qu'il en soit ainsi. Ça aussi, c'est très compliqué. Et la relation n'est pas mécanique, elle est d'une grande complexité. Finalement, mon travail, il est assez intimiste, alors que comme citoyen, très jeune, je me suis engagé dans différentes circonstances, différents groupes, etc.
Dès les Beaux-Arts, vous avez adhéré à l'Union des étudiants communistes.
Oui, alors oui, là, puisque vous parlez de l'UEC, vous citez l'UEC, il y a plus qu'un souvenir. Enfin, c'est un fait marquant. C'est nous avions la direction du journal, du mensuel, avait eu la très bonne idée d'envoyer les uns et les autres, selon leurs études, rencontrer, Alain Robbe-Grillet, Pierre Boulez, et moi, ce fut Pierre Soulages. Alors, ça aussi, ça comprend. Sans, j'ai pas vraiment de lien, ma peinture n'en a aucun avec celle de Soulages, mais enfin, à 22 ans, ça a pu accélérer peut-être une rencontre avec la production moderne et contemporaine.
Alors, il y a eu d'autres rencontres qui ont pu accélérer, rencontres aussi avec les objets. On a parlé de New York et du jazz, vous avez découvert aussi le travail des artistes américains là-bas, notamment Robert Motherwell, peut-être Jackson Pollock.
Oui, alors je suis allé, j'avais donc 22 ans à New York, j'y suis resté à peu près un mois. Évidemment, j'ai écouté Monk, on le disait tout à l'heure, mais j'ai aussi visité les musées. Et vous savez, il faut que les rencontres les plus fortes, il faut un chemin, c'est pas si aisé que cela. Vous venez de citer Robert Motherwell, est évident que c'est le plus facile d'accès, mais les plus grands américains, c'est pas lui, c'est d'une part Pollock, Klein et David Smith, et d'autre part ce que je regarde avec beaucoup plus d'attention depuis une décennie, c'est Hopper.
Et c'était le cas déjà à l'époque ?
Non, c'était trop. J'étais dans une espèce d'effervescence qui ont fait que je recevais tout globalement, mais qu'il a fallu du temps pour que je digère et que ça se transforme, voilà.
Peut-être parce que c'était figuratif aussi ?
Oui, bien sûr, Hopper, c'est une grande, grande référence figurative. Mais l'influence américaine, finalement, elle s'est faite sur mon travail, sur ma pratique, ma production, par l'intermédiaire d'un de mes condisciples, qui s'appelle Michel Parmentier. Michel Parmentier, qui est l'un des quatre fameux, des quatre mousquetaires du BMPT, et je garde beaucoup d'admiration et d'affection pour lui. Il est le premier, parce qu'il faut toujours un passeur, il faut toujours un initiateur. Hein. Et il le fut. C'est ainsi que, très tôt, j'ai pu travailler effectivement sur du papier journal, des méchants papiers, utiliser de la peinture glycérophtalique, etc. etc.
C'est quoi des méchants papiers?
Oui, mais méchants papiers.
Pierre Buraglio.
Oui, c'est... C'est un peu suranné comme expression.
Mais c'est joli.
Oui, c'est joli. C'est-à-dire, c'est pas des papiers qu'on achète dans la boutique de Sennelier, Quai Malaquais, qui sont des beaux papiers, l'Arche, etc. C'était volontairement travailler avec ce qu'il y a de plus pauvre, de plus ressortissant davantage du monde du bricolage que des beaux-arts. Voilà.
Et ça, c'était un parti pris esthétique ou un parti pris politique ou tout en même temps, Pierre Buraglio?
Alors ça, c'est intéressant. Votre question est très intéressante parce qu'évidemment, c'est un parti pris esthétique parce que c'est lié au fer, effectivement. Mais il y a un, comment dire, il y a un substratum. C'est le... C'est pas exactement le mot, il y a plutôt un arrière-fond qui est la guerre d'Algérie et puis après la guerre du Vietnam. Et c'est vrai, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un peu choqué, je me souviens, c'était à Rio de Janeiro, de dire que finalement c'était le courrier du Vietnam que nous recevions, parce qu'on soutenait pas le peuple vietnamien contre l'agression américaine, et c'était avait une influence indirecte aussi, mais quand on pouvait lire que avec les pièces des B-29, n'est-ce pas, qui avaient été descendues par la DCA, permettaient de réparer des lessiveuses. Bon, ben il y a une idée, si vous voulez, de faire avec, d'économie du pain perdu, etc. Qui, oui, c'est pas faux, c'est esthétique et puis c'est peut-être pas politique, mais éthique aussi.
Il y avait un ancrage aussi matériel avec les objets autour.
Oui, alors cet ancrage, oui, cet ancrage, ben, il va se préciser et s'affirmer plutôt au cours des
différentes techniques. Parler des séries pour qu'on comprenne. Vous avez pris l'ordre chronologique, on continue.
Oui.
Recouvrement, agrafe, camouflage, c'est les premières séries qu'on peut voir dans l'exposition.
Oui, alors là, à propos des agrafages, n'est-ce pas, qui ont été montrés à la Galerie Fournier en 1966, c'est une exposition qui fit date, hein, parce que il y avait à la fois Entaille et Parmentier, il y avait Riopel et moi-même. Bon, et ces agrafages, par la suite les camouflages. Je viens de lire un article de Dagen à mon propos, de Philippe Dagen, et il a recours à la figure de l'allégorie. Et c'est assez juste parce que les agrafages, qu'est-ce que je fais? Je détruis c'est l'allégorie d'une opération. Je détruis des toiles que je remets en question, que je trouve trop comme ça, trop École de Paris, etc.
Vous les découpez en triangles?
Je les découpe en triangles, je les assemble mécaniquement. Par conséquent, je détruis et reconstruis. Et les camouflages, je détruis le rapport à... comment dire, je détruis l'image du camouflage pour reconstruire en faisant plus directement une référence picturale. Bon,
à Mondrian, notamment.
À Mondrian, notamment.
Alors, vous pouvez nous expliquer ce système, justement, de camouflage, puisque ce sont des cases aussi, hein, dessinées sur la toile. Et vous dites référence à Mondrian, notamment à travers les motifs, mais les couleurs aussi.
Oui, alors... Oui, c'est un peu compliqué, mais
il faut qu'on se le représente, Pierre Buraglio.
Voilà. Eh ben, représentez-vous une surface de 2 mètres sur 2 mètres et substituez aux trois. Prenons un Mondrian très classique des années 30, enfin ou même avant, et aux trois couleurs primaires, à savoir le bleu, le jaune et le rouge, et substituez du tissu de camouflage. Alors. Pourquoi du tissu de camouflage? Parce que l'opération même du camouflage qui date du début du XXe siècle, hein, même avant la guerre de 14, c'est toute l'opération de la mimésis qui est là-dedans. Alors, donc, je fais de la peinture avec ce qui est, comment dire, c'est très difficile parce que c'est un résultat d'une clarté et d'une évidence totale, mais le processus de la réflexion qui porte ce travail est un peu complexe.
Parce qu'il part de la nature, en tout cas fait de s'en approcher.
Oui. Ben, qu'est-ce que c'est que le camouflage? Ça a été, vous savez, c'est un... C'est assez amusant d'ailleurs, parce que avant la guerre de 14, ou juste à ce moment, il y a un peintre académique qui est à la tête d'un atelier et qui a la très, très bonne idée, d'ailleurs avec assez d'ironie, de perfidie, de faire travailler les peintres cubistes. puisqu'ils imitent le faux bois, ils imitent le faux marbre, etc., ils vont être bons pour imiter la nature. Donc, le camouflage naît de ça. Et ça m'intéressait, le tissu de camouflage, depuis, ça a été très, très repris. Et j'ai abandonné ce recours.
Oui, mais là, c'est les années 60. C'est aussi les parachutistes. C'est aussi la période militaire que vous décrivez.
Ah oui, oui. Mais c'est là, il y a le malentendu. C'est un discours de peinture sur la peinture. Donc, c'est une certaine façon critique, ironique, en regard d'une certaine peinture abstraite, etc. Mais c'est aucun cas un discours directement politique. Et parce que j'étais partisan de la paix en Algérie, et de l'Algérie algérienne, mais ça, c'est pas avec les pinceaux que ça se fait, c'est dans la rue. Et j'ai refusé de participer à l'exposition art et politique au Centre Pompidou. D'ailleurs, c'est foireux déjà dans son concept. Mais enfin, bref. Mais pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de malentendu. Ces travaux-là sont des travaux qui sont comme ça, c'est un peu glose de ma glose, etc. C'est un discours, encore une fois, de peinture sur la peinture.
Alors le discours de peinture, quand on parle du discours sur la peinture, on se pose la question de la qualité de l'objet réalisé par rapport à la démarche recherchée. Je vous propose d'écouter à ce propos Simon Antaille.
L'attitude est seule importante. Le peintre n'a pas à se préoccuper de la qualité de l'œuvre. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la création des signes précède leur signification. C'est-à-dire, sémantiquement parlant, l'ordre est renversé dans la mesure où c'est pas une chose donnée qu'on réalise, mais apparemment dans le noir total et dans le vide total, on se lance dans une aventure où on préoccupe même pas de but. Il n'y a même pas de but. Et le mot qui pourrait le désigner le plus clairement, cette attitude, c'est un mot mystique, justement, de Saint Jean de la Croix, quand ils disent, pour aller où on ne sait pas, on va par où on ne sait pas.
C'est une archive de la RTBF, du 3 janvier 1957. Alors, est-ce que c'est cette attitude-là du peintre qui était la vôtre, justement, cette attitude qui consiste à trouver la démarche et peu importe le résultat, ou en tout cas le résultat est moins important, Pierre Buraglio?
Oui, j'ai pensé ça. D'ailleurs, j'avais cité Marx, le manuscrit du 144, dans un texte que j'ai dû écrire en 65 ou 66, pour le bulletin de la jeune peinture. Je dis que le processus de production est plus important que le résultat lui-même. Donc, c'est vrai que j'ai longtemps soutenu, et je ne sais pas, je ne sais pas trop aujourd'hui, mais c'est évident que c'est très très important la manière dont on procède, la manière dont on s'investit. Mais ça, c'est aussi un des grands paradoxes de la vie, c'est que j'ai rencontré Simon Antaille, je l'ai même un peu fréquenté, et j'ai une certaine admiration pour son travail, mais je suis très loin de ses propos. Cela dit, il a eu une influence sur un certain nombre d'entre nous. Il est d'une des grandes références européennes.
Alors, vous parliez tout à l'heure de papier méchant. Il y en a eu d'autres.
Papier.
Il y a méchant papier. Oui, méchant papier. Il y a eu aussi de méchants objets récupérés. Il y a eu des châssis, il y a eu des fenêtres. Il y a eu cette démarche étendue aussi à un univers artisanal, aussi des chutes peut-être d'un monde un peu industriel. Pierre Buraglio, en tout cas, ce choix de matériaux.
Alors, les châssis, les fenêtres, on est, si vous voulez, plus directement dans la continuité d'un discours de peinture sur la peinture. Hein. Le châssis, que c'est qu'un châssis, c'est un des éléments constituants du peintre occidental. Il tend ses toiles sur le châssis. la fenêtre. Alors là, je crois que c'est ce que peut-être que j'ai fait un peu le plus singulier, peut-être de plus où je crois avoir visé juste, c'est la fenêtre, l'objet fenêtre, intervenir sur la fenêtre de façon métonymique pour dire la peinture.
Alors métonymique parce que la fenêtre sur une fenêtre,
parce que vous
reconstituez vous-même.
Oui, parce que j'ai récupéré des fenêtres sur les chantiers dont j'habitais, le 14e arrondissement, un immense chantier de rénovation, de destruction-rénovation. Et je récupérais des fenêtres. Effectivement, il m'a semblé très tôt que c'était plus fort que de retenir des parties constituantes de la fenêtre. Ça peut être donc l'équerre, n'est-ce pas, ça peut être les deux montants verticaux, d'ailleurs qui portent des noms assez jolis, pour rester sur les mots jolis. C'est l'élément femelle s'appelle gueule du loup, et l'élément mâle, mouton. C'est intéressant.
Oui.
Et on pourrait, oui, on n'a pas le temps, mais on pourrait évidemment développer ça.
Il y a cette question aussi de travailler sous contrainte, c'est-à-dire de repartir de l'objet qui lui-même a sa dynamique, sa logique interne esthétique, et de retravailler à partir de lui. Ça aussi, c'est un discours de la peinture sur la peinture.
Je rebondis sur contrainte. C'est intéressant que vous ayez recours à ce mot, parce que effectivement, très tôt, quelques-uns nous êtes révoltés contre cette espèce d'illusion. Là, aujourd'hui, l'art moderne, les artistes peuvent tout faire, n'importe quoi. Donc, il faut se donner des règles. Et effectivement, je me suis toute ma vie imposé un certain nombre de contraintes. Et le cas précis, raison d'insister, de la fenêtre, là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de mener une opération de telle façon que l'objet fenêtre, l'objet usuel, bon, qui a perdu sa valeur d'usage, mais est reconnaissable comme partie d'une fenêtre, et en même temps, ça devient autre chose. Ça devient une sculpture, une peinture, ce que vous voulez. Donc, il y a la contrainte. On ne fait pas n'importe quel, on s'y parle dans un sens, dans un autre. On ne fait pas, il y a un cadre, il y a des paramètres donnés. Et ça, c'est une... aux étudiants, aux Beaux-Arts, je disais toujours, je ne sais pas si j'avais beaucoup de succès avec ça, mais je disais que c'est une chance, la contrainte. C'est une chance, la contrainte. Et même si on a une commande publique, la contrainte, l'exigence, à quoi ça sert, et pour qui, c'est comment, et même les contraintes budgétaires, tout ça, ce sont des chances. Pour pas se vautrer dans cette prétendue liberté.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de quand on a parlé des matériaux, mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'objet, du rapport à l'objet, puisque finalement l'objet en lui-même, il part d'une histoire dans laquelle vous vous inscrivez, vous, Pierre Buraglio, quand vous reprenez la fenêtre, quand vous reprenez le châssis.
Oui, mais ça, je crois que je viens de dire un certain nombre de choses. Là, c'est le discours de un discours de peintre sur mon métier, sur l'histoire de la peinture, où on peut peut-être ainsi revenir un petit peu en arrière. C'est lorsque j'appréhende, disons, des objets usuels qui constituent notre quotidien.
C'est les Gauloises, par exemple.
Voilà, évidemment, c'est la référence. Et bon, aujourd'hui, on ne fume plus de Gauloises, on n'en trouve plus chez les buralistes ou sur les sols, dans la rue. Mais personnellement, c'est un paquet de Gauloises est lié à ma famille, mais c'est un aspect. Mais indépendamment de ça, si vous voulez, le paquet de Gauloises, par son bleu, par sa sobriété, par comporte des potentialités picturales. On n'aurait pas fait des assemblages de paquets de camels, etc. Alors ce lien aussi à mon histoire avec un petit H, on le retrouve aussi dans par exemple les portières de deux chevaux. J'ai eu une deux chevaux, j'ai fait des voyages en deux chevaux. Et pourquoi? Je viens de le dire, c'est lié à mon histoire, à mon vécu, mais à la limite, tout le monde s'en fiche. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le chevaux, la portière offre une planéité. C'est totale. Elle n'est pas, si vous voulez, galbée. Et là, on retrouve, c'est peut-être quasiment idiosyncrasique, c'est-à-dire toujours dès mes premières tentatives d'élève peintre, j'ai eu un besoin de travailler d'être plan, j'étais comme fâché, si vous voulez, avec la perspective, même si je pouvais la prendre.
Alors c'est comme aussi voir, de même qu'à travers la portière de la deux chevaux ou la fenêtre, l'idée d'un imaginaire hors champ aussi.
Oui, ben là, c'est la situation, comme disait Umberto Eco, c'est la c'est l'œuvre ouverte, la situation est ouverte. Il est évident que ces 4 mètres carrés de gauloises bleues qu'on peut voir au musée, ils offrent peut-être un tremplin à l'imaginaire, et les portières de deux chevaux aussi. Etc.
Pour le reste, il va falloir y aller pour aller le voir. Merci Pierre Buraglio d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que le Musée d'art moderne contemporain de Saint-Étienne vous consacre jusqu'au 22 septembre une exposition rétrospective intitulée Bas Voltage 1960-2019. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été consacrée au photographe Henri Cartier-Bresson et une seconde partie à la chanteuse Laure Briard. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou Le Joli, Luc Vauvilliers et Julien Rosa, à la réalisation Alexandra Longuet, à la technique Inès de Bruyne. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécouté en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.